de la question, Jean-Yves Casgat.
Et si nous faisions la révolution bleue ? Jean-Pierre Gou, chercheur en mathématiques et en informatique, héritier de Saint-Exupéry, Kessel, Barjavel, publie le deuxième ouvrage d'une série de trois, Ombre et Lumière, un thriller écologique à base de science, de technologie et d'environnement décoiffant, qui part du constat suivant. En fait, aujourd'hui, à la croisée des chemins, l'humanité a maintenant devant elle une feuille blanche. Elle doit imaginer son rêve pour le 21e siècle. Angoissant pour certains, mais c'est aussi une chance unique pour tout réinventer, différemment. Comme l'écrit Jeremy Rifkin dans la troisième révolution industrielle, ce qui manque aux dirigeants, c'est un récit. Afin que les actions individuelles s'inscrivent dans un plan général cohérent et compréhensible par tous. Qui plus est, ce récit doit être exaltant et d'une incroyable solidité. Jusqu'à des temps récents, les peuples se sont laissés guider par les histoires et les rêves racontés par les anciens ou les prophètes. C'est comme cela que les sociétés humaines ont évolué et surtout comme cela qu'elles ont survécu. Or, on ne retrouve pas cette ferveur dans les déclarations des politiques, ni dans les processus onusiens, administratifs, ni dans l'usage des sciences et des technologies. L'humanité a peut-être besoin d'un grand électrochoc pour ouvrir les yeux, mais surtout, elle a besoin d'un grand rêve, positif, enthousiasmant, qui lui donne la force et la joie de métamorphoser son organisation pendant ce siècle décisif. Chacun peut contribuer à l'élaboration de ce récit et de ce rêve par des actions locales ou globales qui créent de la beauté et redonnent du sens à nos vies. Ombres et Lumières, le livre qui ouvre la porte du siècle bleu, c'est sur RFI ce vendredi. Bonjour Jean-Pierre Gou.
Bonjour Jean-Yves Casgat.
J'ai envie de dire, enfin, je l'attendais, moi, la suite du précédent.
Il y avait eu le seul.
Oui, le siècle bleu. Alors, il est aussi lourd que l'autre.
Hein. Il est plus lourd, il fait presque 666 grammes.
Oui, oui.
Donc, presque le chiffre du diable.
Oui, mais bon, on va dire qu'il s'arrête à 550 pages et des brouettes,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Donc, siècle bleu, ombres et lumières. Donc, en fait, c'est une trilogie que vous avez conçue il y a quelques années. Et donc, premier épisode, il est sorti le siècle bleu. Et là, vient de paraître un siècle bleu sous-titre Ombres et Lumières, c'est chez Hugo Roman, donc toujours le même éditeur. C'est vraiment une aventure, là, hein ?
Oui, oui, c'est...
Parce que humaine et une aventure à l'intérieur du livre.
Exactement.
Alors, je vais pas vous demander tout de suite de quoi s'agira-t-il dans le troisième, parce que moi, j'ai un petit peu d'avance, j'ai la chance de l'avoir lu. D'abord, je posais comme question pour ceux autour de la question, et si nous faisions la révolution bleue ? C'est un peu le thème, là, dans le deuxième, révolution bleue.
C'est exactement le thème, et c'est le récit dont vous parliez tout à l'heure. Essayer d'utiliser le roman pour mettre en scène une révolution qui est plus une évolution ou une métamorphose, hein, elle a rien de destructrice, c'est une révolution qui est pacifique, mais qui est une révolution dans l'état d'esprit. Et en fait, cette révolution bleue qui est décrite dans le livre, c'est le rêve d'un homme, d'un astronaute qui s'appelle Paul Gardner, qui est en détresse puisqu'il est seul, abandonné sur la Lune, il attend qu'on vienne le secourir. Il est seul sur la Lune parce qu'il y a eu un imbroglio diplomatique entre la Chine et les États-Unis, et les États-Unis l'ont laissé seul, et il attend que les Chinois viennent le secourir. Donc ce deuxième tome qui peut être lu indépendamment du premier, c'est l'histoire d'un sauvetage de cet homme. Et cet homme, tous les jours, poste des messages sur son blog. Donc l'histoire fait 14 jours et pendant 14 jours, il réfléchit en voyant la Terre depuis la Lune. Il voit ce petit globe bleu, fragile, dans un fond cosmique froid, lugubre, noir. Il se rend compte à quel point la Terre est belle et il se met à rêver et à imaginer quel pourrait être un futur de l'humanité qui éviterait, par exemple, ce qui lui est arrivé à lui, quoi, d'être laissé seul et il sait pas si on va venir le secourir ou pas. Et le rêve qu'il formule, qui est cette révolution bleue, en fait, elle a une composante spatiale et une composante temporelle. Le premier constat qu'il fait, c'est que, compte tenu de l'ampleur des défis que l'humanité a à fournir, l'effort en fait pour parvenir à cette métamorphose, ça ne se fera pas en une minute, en une semaine, en un an. C'est un effort qui devra se faire sur un siècle, le siècle bleu. Et ce siècle-là, qui est le 21e siècle, il a une caractéristique très particulière, c'est que c'est le siècle d'un point de vue spatial qui nous fait réaliser qu'on vit dans un monde fini. Alors Paul Valéry l'avait annoncé, je crois, en 1934. D'ailleurs, c'est une des phrases que j'ai mis en ouverture du livre, cette citation de Paul Valéry, « Le temps du monde fini commence ». En fait, il commence vraiment au 21e siècle, même si on commençait à sentir qu'on vivait dans un monde clos, dans lequel il était difficile de faire des découvertes archéologiques ou autres, mais qu'on avait à peu près tout exploré, quoique il y a des choses dans le livre que je révèle et que les gens n'ont pas encore exploré, mais elles relèvent de l'imaginaire, mais je pense qu'il y a encore des choses pas explorées. Mais en tout cas, on prend conscience dans ce siècle qu'on vit sur une planète qui est petite, aux ressources finies, et que notre espèce, elle utilise trop ses ressources. Donc il y a besoin de comprendre, et ça c'est des choses dont on parle depuis une quarantaine d'années, que l'on vit sur le vaisseau Terre, c'est-à-dire sur une planète qui se déplace et dans lequel on est tous embarqués, et il faut qu'on apprenne à vivre ensemble sur ce vaisseau Terre. Et donc, un effort dans le temps, un effort dans l'espace pour comprendre qu'on vit dans ce vaisseau Terre, et à partir de là, il imagine des choses, et en fait, tout au long du récit, la Terre vibre et les 7 milliards d'humains vivent en fonction de l'évolution de ces messages. Donc, il se retrouve dans une situation très particulière où tout le monde veut venir l'aider. Puis, au lieu de dire des banalités, il dit des choses qui touchent les gens et petit à petit, ça se réalise. Et donc, la révolution qu'il imagine dans sa tête se réalise dans ce récit.
Mais si tout ça est possible, c'est aussi parce qu'il fait le constat qu'on est dans une société où, parce que le monde est fini, la ressource aussi est finie, donc il y a raréfaction des ressources.
Oui.
Raréfaction des ressources, ça met en évidence qu'il y a eu pillage technologique, on va dire. Que les technologies, du coup, d'ailleurs, ont une très grande importance, ne serait-ce que parce qu'il faut bien le faire, ce rendez-vous spatial.
Oui, bien sûr.
Là-bas pour aller le chercher, le sauver. Donc, tout est imbriqué. Il y a de l'environnement, il y a de la science, il y a de la technologie, et puis la dimension supérieure, on va dire, il y a de l'humanité qui traverse tout ça, quoi.
Exactement, quoi. Non, mais en fait, ce rêve du siècle bleu ou de cette révolution bleue, il a besoin de la technologie pour se réaliser, parce que pour que l'humanité réalise qu'elle vit sur le vaisseau Terre, il faut pouvoir avoir vu le vaisseau Terre depuis l'espace. Puisque quand on vit en deux dimensions comme nous, qu'on marche dans Paris ou à la campagne, on se rend pas forcément compte de la rotondité de la Terre. En tout cas, on n'arrive pas à concevoir que les ressources sont en rares, qu'elles sont précieuses et que tout ça est très fragile. Et on a vraiment réalisé ça dans les fin des années 60, début des années 70, quand on est allé dans l'espace. Et pour moi, cette élan spatial justifie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont écologistes, qui sont contre le progrès, contre la science, contre la technologie. Moi, je suis pour le progrès, pour la science, pour la technologie, à condition que ça soit maîtrisé, fait intelligemment et avec une conscience des conséquences, et pas à 10 minutes, à plusieurs années, voire décennies. Et si on fait de la science dans ces cadres-là, ça va amener des choses très belles. Et typiquement, l'exploration spatiale, la principale découverte que l'on a faite, c'est pas d'autres astres, c'est la Terre. Et ce rêve n'aurait jamais pu se réaliser, ce rêve de cet astronaute, si lui n'avait pas pu partir dans l'espace et pas pu s'élever. Et je raconte d'ailleurs dans ce deuxième tome l'histoire de cette prise de conscience de cette troisième dimension et l'histoire qui nous a mené jusqu'à la découverte du visage de Gaïa à la Terre. Et ça, c'est une histoire qui a été assez rocambolesque dans l'histoire de l'humanité. Mais on y arrive maintenant. Alors cette image, au début des années 70, elle a permis l'essor des mouvements écologie. Plusieurs utilisent ces photos de la Terre comme drapeau, mais on se rend compte que cette image, elle s'est essoufflée. C'est-à-dire qu'avec le temps, les gens, ils voient des images de la Terre comme ils voient des images d'autres choses. Mais pourtant, c'est des images qui sont extrêmement fortes d'un point de vue symbolique, et il faudrait les remettre au cœur d'un récit, d'une espèce de mythologie, pour que les gens respectent leur maison, quoi. Et si les gens respectaient cette maison-là, on pourrait avoir un changement de l'état d'esprit assez majeur. En tout cas, c'est ce que j'explique dans le livre. Et cette maison, il faut avoir le sentiment qu'on risque de la perte. C'est pour ça que ce livre est aussi dur, parce que tout au long du livre, on ne sait pas si les héros vont y arriver, on ne sait pas si ils vont réussir à préserver, enfin déjà à se préserver eux-mêmes, puisqu'il y a un groupe d'individus au-delà de cet astronaute qui lutte, on en parlera après. On ne sait pas s'ils vont y arriver, et cette image de la Terre, si on la revoit dans des circonstances où on se dit qu'on peut la perdre, en fait elle prend un pouvoir narratif et un pouvoir symbolique extrêmement fort, quoi. C'est comme si on vous montrait vos vos enfants, puis qu'on vous dise que vous allez mourir dans 5 minutes, si jamais vous mourrez pas dans les 5 minutes, vous aurez qu'une envie de faire, c'est de vous occuper de vos enfants toute votre vie, si vous le faisiez pas déjà avant, quoi. Donc, cette présence ou omniprésence de la mort avec une image très forte, symbolique, peut arriver à provoquer un changement de grande ampleur. Donc, c'est un changement qui est de nature poétique au départ. Justement, la poésie, elle peut jouer sur l'état d'esprit. Et une fois que l'état d'esprit est bon, là, on peut travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, on bute sur le fait que l'état d'esprit est pas assez propice à une transition écologique.
Et forcément, si on vous suit, un de ces jours, demain sera parfait. C'est Jean-Louis Aubert.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles. Les seuls et là, ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale. Les stéos radio matinale. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Mes petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent.
Siècle bleu, ombre et lumière avec vous, Jean-Pierre Gouche et Hugo Roman. Alors, vous nous avez bien expliqué, on va dire, la philosophie qui sous-tend votre récit. Mais moi, je disais dès le départ que c'était un thriller. C'est super excitant, il y a des rebondissements tout le temps. Il n'y a pas que de la philo, on vit une sacrée aventure quand même. Alors attention, d'ailleurs, j'ai un avertissement pour les auditeurs. Quand vous commencez à lire ce livre, essayez de ne pas commencer le soir, parce que vous n'arrêtez pas de tourner les pages, et à un moment, vous dites « Ah, oh, mais les 4 heures du matin, c'est pas possible, j'ai pas fini. »
Non, mais
c'est passionnant, quoi. On a toujours envie de savoir, parce que je ne sais pas comment vous travaillez, d'ailleurs. Vous faites une structure avant pour qu'il y ait autant de rebondissements et...
Alors, je fais une structure avant.
Ça, c'est le côté mathématicien.
Oui, donc c'est mon côté mathématicien ou informaticien. Enfin, je le conçois comme étant... quelque chose pour qu'il y ait une charge émotionnelle maximum. Donc j'essaye, il y a toujours 3 ou 4 récits en parallèle, comme beaucoup de thrillers, et j'essaye toujours qu'il y ait toujours des choses qui fassent tourner les pages. Donc c'est conçu comme un page-turner, et je le reçois...
Page-turner.
Les anglo-saxons qui disent ça. Et je fais une trame assez précise, mais au sein des chapitres, par contre, je me laisse beaucoup d'improvisation. Je sais quand est-ce que les histoires doivent se recombiner, je sais quelle histoire accélère, quand quelle histoire ralentit, quand je dois provoquer des émotions, mais après, je me laisse pas mal de latitude pour improviser, parce que sinon l'écriture est assez pénible. Et puis c'est là où je fais des découvertes aussi en improvisant.
Mais on voit aussi que vous êtes un passionné et un pratiquant de science, parce que par exemple à un moment il y a une explosion atomique dans le Nevada ou je sais plus où,
enfin, ou dans le désert du Nouveau-Mexique.
Voilà, où il y a une tribu d'Indiens. Bon, et donc on va pas tout dire non plus. Mais bref, il y a une explosion atomique. Mais à partir du moment où il y a explosion atomique, la description, comment ça marche, les effets, le souffle, la lumière, etc., on comprend sans que ça soit indigeste comme un cours. Et en même temps, il y a tout dedans, quoi. On apprend beaucoup.
Effectivement, le livre s'ouvre. Alors, on révèle rien parce que ça se passe dans la première page. Le livre s'ouvre par une explosion atomique. Le héros principal, en fait, dans le tome précédent, va révéler un secret qui est justement la raison pour laquelle son ami astronaute, puisque c'est son meilleur ami, en fait, l'astronaute, pourquoi est-ce qu'il est bloqué sur la Lune. Et il révèle ce secret que dissimulent les États-Unis et la Chine. Et il révèle ce secret à la fin du premier tome. Et au début du tome 2, on s'attend à ce qu'il y ait une révolution et que le gouvernement américain il tombe. Et en fait, les États-Unis et la Chine se mettent d'accord. Au bout de 500 pages, vous apprendrez ce sur quoi ils se sont mis d'accord. En tout cas, une explosion atomique détonne dans le désert du Nouveau-Mexique et les États-Unis et la Chine se mettent d'accord pour accuser Gaïa de cette explosion atomique. Gaïa, qui est le groupe éco-terroriste auquel fait partie, enfin éco-activiste dont fait partie le meilleur ami de l'astronaute.
Éco-terroriste, c'est du point de vue du gouvernement.
Voilà, eux ce sont...
Du point de vue de Jean-Pierre Gou, il est plutôt éco-activiste.
Voilà, donc le héros est à la tête d'un groupe qui s'appelle Gaïa, qui est un groupe éco-activiste. Et il se retrouve donc accusé de cette explosion. Le peuple est complètement sidéré par cette explosion. Ça fait 60 ans qu'on n'a pas vu d'explosion atomique. Et le gouvernement américain diffuse les images en boucle. Le peuple est complètement anesthésié. Et le groupe n'a pas réussi à faire sa révolution. Et effectivement, par exemple, je décris quel est l'effet de l'explosion sur deux jeunes enfants. Ma femme m'en a beaucoup voulu d'avoir écrit cette scène, mais je l'ai laissée. Et du coup, j'ai lu beaucoup de récits de rescapés de Hiroshima qui expliquaient exactement quels étaient les effets de la détonation. J'ai lu des bouquins sur comment fonctionne une bombe atomique, qu'est-ce qu'on ressent d'abord, le souffle, les radiations, la chaleur, quels sont les effets qu'on a après. Donc moi, ça me permet de me renseigner sur des tas de sujets dont je ne suis pas au courant, et après je le restitue dans le récit. Alors le roman, ça permet de parler d'une multitude de sujets, mais ça permet pas forcément de les approfondir. Je donne une bibliographie à la fin, et puis là, prochainement, je vais mettre là sur mon site sièclebleu.org toute la documentation qui m'a servi pour le livre. Donc, toutes les livres de référence pour chaque passage, etc. Donc, ça va être un gros boulot, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vrai? Ou est-ce que je pourrais en savoir plus ?» Donc, la bibliographie...
Tout est vrai, en fait. C'est simplement la façon dont vous orchestrez ça.
Oui, tout est vrai. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas tous aux mêmes choses dans le livre et qui aimeraient creuser tel point ou creuser tel autre.
Parce que, par exemple, l'association éco-activiste ou éco-terroriste, selon le point de vue... qui s'appelle Gaïa, finalement, elle est dirigée par celui qui a repris Biosphère. Or, Biosphère, c'est un truc qui existe, bon, c'est une expérience qui n'est pas allée au bout, mais qui risque de repartir, même peut-être. Mais vous lui redonnez une vie, mais en fait, on peut aller visiter, quoi, ça existe.
Oui, en fait, tout existe dans le roman, à part deux, trois choses que j'ai imaginées et qui sont de l'ordre de l'imaginaire.
Mais sinon, il y en a une que vous avez imaginée au moment où vous l'avez imaginée, et puis qui finalement s'est passé au mois de mai.
C'est sur le spatial privé. Le spatial privé, effectivement, ça fait un certain nombre d'années que je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de start-up californiennes dans le spatial qui vont réussir, là où la NASA mettait 10 ans, à faire les choses en 2-3 ans. Et là, on l'a vu la semaine, au mois de mai, la société SpaceX a réussi à mettre en orbite sa capsule qui est allée rejoindre la Station Spatiale Internationale. Ils ont fait ça en un temps absolument record. Et j'étais content de voir qu'ils aient réussi, puisque j'ai un personnage qui s'inspire du PDG de SpaceX qui s'appelle Elon Musk et de sa société. Donc effectivement, parfois, la réalité rattrape la fiction.
Eh bien, on va s'arrêter 3 minutes, Jean-Pierre Gou. Vous ne nous en dites pas plus pour l'instant, puisque c'est l'heure des informations sur Radio France Internationale. On se retrouve donc juste après le journal.
Question. Jean-Yves Casgar.
Et si nous faisions la révolution bleue ? Jean-Pierre Goux, chercheur en mathématiques et en informatique, héritier de Saint-Exupéry, Kessel et Barjavel, publie le deuxième ouvrage d'une série de trois, Ombres et Lumières, un thriller écologique à base de science, de technologie et d'environnement, décoiffant, qui part du constat suivant. En fait, aujourd'hui, à la croisée des chemins, l'humanité a maintenant devant elle une feuille blanche. Elle doit imaginer son rêve pour le 21e siècle. Angoissant pour certains, mais c'est aussi une chance unique pour tout réinventer, différemment. Comme l'écrit Jeremy Rifkin dans la troisième révolution industrielle, ce qui manque aux dirigeants, c'est un récit. Afin que les actions individuelles s'inscrivent dans un plan général, cohérent et compréhensible par tous. Ce récit, en plus, doit être exaltant et d'une incroyable solidité. Ombres et Lumières, le livre qui ouvre la porte du siècle bleu, c'est sur RFI ce vendredi. Jean-Pierre Goux, on continue à parcourir votre siècle bleu, donc ça va être le 21e siècle, hein, j'ai bien compris, c'est le nôtre quoi. Il y a une proposition, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, que vous proposez donc. C'est bourré de rebondissements. On n'arrête pas de passer de la science, technologie à l'environnement, en ayant aussi sans arrêt une sorte de trame, je sais pas exactement, humaniste, de respect de l'autre, de respect de la planète. Et pourtant, parfois, c'est dans des moments de tension extrême. Vous parliez tout à l'heure, dans la première partie, de le livre démarre sur une explosion atomique aux États-Unis, mais une explosion qui n'était pas un test, hein, qui était juste pour détruire, quoi. C'est vrai que c'est assez fort. Et puis, en même temps, quand vous voulez résoudre une énigme, j'ai même corné la page, parce que c'est spectaculaire. En fait, pour commencer à comprendre, vous déclinez toutes les décimales du nombre pi, c'est un truc... Je sais qu'il y a des gens qui essayent d'en trouver des nouvelles chaque fois en utilisant des calculateurs extraordinaires.
Ouais, je me suis abusé à ça à une époque.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que là, et en même temps, on comprend très bien parce que, en fait, vous avez ce talent de... le nombre pi, quand on était en classe, bon, ça prenait vite la tête, comme on disait. Mais là, on comprend complètement comment c'est essentiel et malin d'avoir utilisé ça pour un type de codage.
Oui, donc j'ai essayé de mélanger dans ce livre effectivement des dimensions scientifiques, sociologiques, géopolitiques, parce que c'est à l'image de notre monde. Le monde des humains est fait d'un peu tout ça. Et comme vous le disiez, si on veut inventer une utopie, il faut que celle-ci elle soit robuste. Et il faut qu'elle soit robuste, un, par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons. Le monde du 21e siècle n'est pas le monde du 11e siècle et pas le monde du 15e siècle. Et il faut surtout qu'elle soit robuste vis-à-vis des travers de l'homme. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, j'ai lu beaucoup de livres sur les utopies, beaucoup d'utopies qui ont été écrites par Thomas More, par d'autres depuis. Et en fait, toutes ces utopies, c'est des utopies utopiques, moi j'appelle ça. C'est-à-dire des utopies qui, elles sont très bien, mais elles s'adressent pas à l'espèce humaine. C'est-à-dire que si on la plaque sur l'espèce humaine, ça ne pourra pas fonctionner. Et on voit bien qu'il y a certaines utopies, comme le communisme. Bon, sur le papier, on se dit c'est peut-être bien, mais après, une fois qu'on l'a donné aux humains, ça a été une catastrophe. Le capitalisme, il y avait peut-être aussi des choses qui étaient intéressantes, mais ça a été, on le voit aujourd'hui, il y a des dérives qui sont catastrophiques. Et donc, on se rend compte qu'à la fois dans les propositions des économistes pour organiser la société, ou dans les productions d'auteurs de science-fiction, ou de romanciers de création des utopies, celles-ci n'arrivaient pas à être en phase avec la réalité et à résister à l'homme. Donc, dans le groupe qui est au cœur de l'intrigue, c'est un groupe éco-activiste qui s'appelle Gaïa, qui avait son leader avait pensé à une façon de changer le monde, et comme je vous le disais, dès la première page, cet espoir de changer le monde ne se réalise pas, et ça veut dire que son utopie à lui n'était pas robuste, quoi. Et finalement, c'est l'utopie de son ami qui rêve sur la Lune, qui n'avait pas du tout prévu de changer le monde, lui, qui la réalise, et son ami qui va essayer donc de faire tout pour que l'astronaute soit libéré, va devoir faire face dans ce livre, c'est après ce que, je dirais, les 12 travaux d'Hercule, il va rencontrer tout ce qu'il y a de pire à peu près dans l'espèce humaine. Et c'est un périple qui, pour moi, est très proche des travaux d'Hercule, ou aussi des visites que fait le petit prince d'une planète à une autre, où il rencontre à chaque fois des personnages un peu particuliers. Donc dans les personnages auxquels il s'oppose, il y a le président des États-Unis, le secrétaire à la défense des États-Unis, il y a un vieux milliardaire complètement pourri qui est absolument qui n'a aucune limite dans son immoralité. Il y a aussi des cartels mexicains et des mafias russes auxquels il va être confronté. Et ces cartels mexicains et cette mafia russe sont reliés au milliardaire par une banque qui s'appelle la Sunset Bank.
Oui, parce que vous avez effectivement, vous avez ajouté une dimension qui n'était pas présente dans le premier. C'est une autre science, c'est l'analyse financière.
Oui, oui, alors c'est une autre science, mais elle était en toile de fond dans le premier, puisqu'il y avait une allusion, le père du héros, donc qui s'appelle Abel Badel Villason, qui est mexicain d'origine mais qui vit aux États-Unis. Son père était un juge à Tijuana qui s'est fait assassiner par le cartel de Tijuana au moment où il menait une enquête. Et dans le tome 1, on n'en sait pas plus sur son père, mais on dit juste qu'il a été assassiné. Et là, en fait, dans le tome 2, les gens qui étaient derrière l'assassinat de son père se retrouvent reliés par l'intrigue à aux mésaventures du héros. Et le héros va donc voir, je dirais, le spectre de son père et des gens qui tournaient autour de son père se lier contre lui. Donc il y a une intrigue, on va dire, multigénérationnelle, voire ancestrale qui débute. Et il y a cette dimension mafieuse qui est rajoutée dans le livre, qui est très importante dans ce livre-là. Et pour moi, c'est une des dimensions dont les politiques, par exemple, sont le moins conscients et qui risquent d'être la principale force antidémocratique du XXIe siècle. Et une utopie qui ne tient pas compte du phénomène mafieux, pour moi, c'est une mauvaise utopie, quoi. Et aujourd'hui, cette utopie fait des ravages en Italie, mais aussi au Mexique ou en Russie, et elle pourrait tout à fait arriver chez nous. Enfin, il y a des signes de pénétration mafieuse assez forts. Et pour que ces mafias fonctionnent, elles ont besoin de banques qui sont pas les grandes banques que l'on connaît, on passe le temps à fustiger, les Goldman Sachs, etc. C'est plutôt des petites banques qui, sur des îles, donc il y a toute une partie qui se passe à Tortola dans les îles Vierges britanniques, qui est vraiment un des repères mondiaux de la finance offshore. Et il y a cette banque, la Sunset Bank, qui est la banque la plus pourrie du monde et que le héros va devoir braquer avec sa femme Lucie pour arriver à s'en sortir. Donc il y a toute cette histoire-là, effectivement, qui a une nouvelle dimension, mais qui est pour moi très importante.
C'est un braquage sophistiqué, parce que le héros et sa femme, d'ailleurs, sont extrêmement sophistiqués.
Voilà,
aussi,
donc, pour parvenir à leur fin, donc au départ, ils sont très peu nombreux, il est juste avec sa femme à se battre contre Pékin, Washington, des mafia, mais ils croisent le chemin d'un mystérieux hacker qui va en fait leur changer leur vie. Et puis
alors
les
ça,
aider
c'est
à
votre côté, parce que quand je vous ai présenté, je disais bien que vous étiez et mathématicien et informaticien. Hacker, là, c'est votre côté informatique.
Oui, oui. Alors, moi, j'ai jamais été hacker, mais je me suis toujours beaucoup intéressé au phénomène du hacking.
Ce sont les gens qui peuvent entrer dans n'importe quel système.
Voilà, c'est des gens qui arrivent à développer des techniques de pénétration de n'importe quel système informatique. Alors, c'est vraiment comme ombre et lumière. Il y a des hackers qui appartiennent au monde de l'ombre et des hackers qui appartiennent au monde de la lumière. Donc certains qui agissent pour le bien, d'autres pour le mal. Donc là, en l'occurrence, ils rencontrent un hacker qui agit pour le bien et qui va les aider à la fois contre le gouvernement américain pour les protéger et puis aussi pour s'attaquer à cette banque et résoudre leurs problèmes.
On fait sans arrêt, en gros, le tour de la planète. D'abord parce que l'astronaute, évidemment, qui est coincé sur la Lune, lui, il voit la petite boule magnifique qui lui suggère toute cette histoire de révolution bleue. Mais il y a aussi que sur place, son copain qui est resté sur Terre, donc Abel, lui, il n'arrête pas. Vous citiez des îles, il va en Chine, il va évidemment aux États-Unis puisqu'il y est, etc. Mais cette histoire incroyable, qui est un mythe vivant, se finit à Marseille. Et on aurait pu se dire, mais c'est juste parce que bon, il est provençal, Jean-Pierre Gault, il est né à Nice, Marseille, bon, pourquoi pas, tout ça. Et en fait, alors ça, il faut vraiment rien dire. Non. Mais c'est extraordinaire. Bon, c'est à Marseille. Moi, je connais un peu forcément, puisque souvent, on fait des émissions autour de la question en direct depuis Marseille. Là où ça se passe, c'est époustouflant. Et l'idée, bravo. Voilà.
Ouais, mais même les Marseillais, je pense qu'ils seront surpris.
Parce que
c'est
sûr.
Une chose à Marseille, qui est pas facile d'accès, on n'en dira pas plus.
Ouais.
Mais c'est vrai que pour moi, c'était très important d'avoir ce retour aux origines. Moi, je suis né à Nice en 1973, là, en plein milieu du choc pétrolier, juste après qu'on a arrêté les missions Apollo, qui ont été en 1972. Et, enfin, moi, Nice, avec ce ciel bleu perpétuel, m'a beaucoup inspiré ce thème du siècle bleu. Et puis, à Nice, on avait un peintre très particulier. particulier qui s'appelait Yves Klein, qui était le maître du bleu, qui peignait des monochromes bleus, qui est pour moi mon peintre favori. Alors beaucoup de gens qui me disent c'est un imposteur, il peint que du bleu. Mais si on peint ce monde en bleu, je pense que le monde peut changer. Et donc Yves Klein joue un rôle dans cette fin, et c'est une des raisons pour lesquelles l'intrigue se finit d'abord à Nice et puis après à Marseille. Effectivement, les dernières pages sont à Marseille. Mais pour moi, c'était important d'avoir ce retour aux sources dans une intrigue qui est absolument pas française, qui se déroule en grande partie dans l'Ouest américain, entre le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, un peu la Californie. Puis il y a une partie en Chine, une partie au Japon, une partie en Russie. Donc c'est vraiment une intrigue planétaire.
Et puis
planétaire,
dans ces fameuses îles...
Îles Vierges, dans les Caraïbes. Donc il y avait la volonté de revenir vers quelque chose de très simple, de très apaisé, de très minimaliste, et de faire ça en France, puisqu'il est quasiment jamais question d'Europe, dans ce livre. Mais je gardais le morceau de choix pour l'Europe, pour la France et plus particulièrement pour le sud de la France.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin,
on est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel.
On est loin.
Madame rêve, Alain Bachung. Moi, j'aime bien Alain Bachung. Vous aimez aussi Jean-Pierre?
J'aime beaucoup aussi.
Ouais. Ça m'étonne pas, et puis rêve, ça vous va bien.
Voilà, beaucoup de rêves, beaucoup de poésie.
Là, votre titre, c'est pas rêve, c'est ombre et lumière, pour votre siècle bleu. Donc là, on est dans la dernière partie de l'émission. Il y a une sorte de fil rouge quand même qui est, en plus de votre préoccupation humaniste, il y a quand même, on sent une sorte d'inquiétude, on va dire au sens large, environnementaliste. Parce que vous ouvrez, vous nous le rappeliez avec une petite phrase de Paul Valéry, « Le temps du monde fini commence ». C'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis les années 72, au moment du fameux rapport du Club de Rome. Dont on fête les 40 ans, on peut pas dire... les ressources sont finies, et c'est par définition. Et puis votre astronaute qui regarde la Terre, il voit bien qu'elle est ronde et qu'il n'y a pas d'extension à droite, à gauche, pour aller chercher, je sais pas, un peu plus de pétrole, un peu plus de gaz, un peu plus de minerais un peu rares, etc. Donc, c'est comme une angoisse sourde tout le long du roman.
Oui, alors c'est vrai que pour moi, c'est l'angoisse principale, et c'est la raison pour laquelle, maintenant je travaille dans le secteur de l'énergie, le fait que des choses viennent à manquer, on nous en parle depuis longtemps, mais on n'en a pas vu pour l'instant les premières secousses. Quoi. Et on va arriver dans les années à venir et les décennies à venir, éléments chimiques par éléments chimiques, à voir ces secousses. Et pour certains de ces éléments chimiques, les secousses vont être absolument catastrophiques si on n'anticipe pas les choses à l'avance pour éviter les effets de ces secousses. Et pour moi, la principale secousse qu'on va prendre dans ce siècle, et c'est pas dans 50 ans, c'est d'ici quelques années, c'est sur le pétrole. Quoi. Aujourd'hui, le pétrole, c'est de loin la source d'énergie qu'on utilise le plus. Il est de plus en plus difficile de trouver des nouveaux champs de pétrole exploitables facilement d'un point de vue technique. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sondages pétroliers qui ne fonctionnent pas, on n'arrive pas à trouver le pétrole derrière. Le pétrole est de plus en plus cher à extraire, et au moment où on va dire on produira moins de pétrole que le besoin, tout le monde pourra pas en avoir. Donc on va avoir normalement on se met globalement tous d'accord pour être moins dépendant au pétrole et trouver des alternatives, mais ce qui semble pas être le cas, ou alors on va se battre pour ce qui reste, quoi. Et se battre, au départ, ça va être la mainmise de certains états sur certaines ressources, et donc on le voit, la Chine des terres agricoles, achète du pétrole, enfin des endroits où il y a du pétrole. Les États-Unis aussi. Donc il y a un certain nombre d'États qui ont une vision très géopolitique, et puis l'Union européenne, par exemple, qui n'a pas du tout cette vision-là sur les ressources. Et on risque de se retrouver dans une situation où on ne sera pas servi. Et aujourd'hui, si on n'a pas fait une transition et que, par exemple, on privait la Terre, enfin, ou la France de pétrole, ne serait-ce que pendant 2-3 semaines, le chaos va s'installer complètement dans le pays, quoi. Tout dépend du pétrole, que ce soit notre acheminement en nourriture, la façon dont on travaille, la façon dont on se chauffe, la façon dont on produit. Et si on a des chocs pétroliers qui mènent à des pénuries ou au fait que certains États soient pas servis, ça peut être des catastrophes absolues pour des mondes extrêmement, on va dire, avancés. Et on n'est pas du tout préparé à ça. Et pour moi, il faut absolument que les États aient ça en tête. Alors, pour certains, ils l'ont, hein, et dans les comités de stratégie de certains États, que ce soit au Pentagone, à la Bundeswehr, par exemple, sur le choc pétrolier, enfin, ou sur ce pic pétrolier, il y a des rapports très précis qui ont été écrits, et toute la doctrine, la politique étrangère est dictée par ça. Et j'ai l'impression que c'est des choses que beaucoup d'États, peut-être trop naïfs, ne prennent pas en compte. Et il faut surtout arriver à avoir une espèce de gouvernance planétaire pour moins utiliser les ressources et éviter de tout dilapider, de se retrouver avec plus rien. Moi, j'ai des enfants et je veux vraiment pas qu'ils se retrouvent dans un monde qui ressemble au monde de Mad Max. Donc, ce livre est une lutte pour que le monde de Mad Max ne voit pas le jour.
Mais on peut pas imaginer que le développement de telle ou telle technologie permettrait de mettre en place un nouveau produit qu'on n'imagine même pas, mais qui nous fournirait de l'énergie et qui résoudrait ce problème de pénurie inéluctable.
Oui, le problème, c'est l'échelle. Chaque jour, on consomme des centaines de millions de barils de pétrole par jour. Donc, vous voyez, un baril, ce que c'est, on consomme des centaines de millions. Et donc, si on trouvait une alternative, il faudrait que cette alternative, elle puisse satisfaire les besoins à cette échelle-là. Donc, c'est forcément quelque chose de colossal. Et trouver quelque chose qui n'a pas d'impact sur la planète, qui puisse avoir quelque chose d'aussi colossal que ça, aujourd'hui, on l'a pas. Donc, forcément, il faut passer par une forme de sobriété, d'efficacité énergétique et donc gérer la demande, quoi, avant de trouver des nouvelles sources d'offres. Et puis après, dans les sources d'offres, il faut effectivement investir dans le renouvelable et trouver des nouvelles formes d'énergie qui nous permettent de continuer à avoir cet apport. L'énergie, enfin, c'est quand même ce qui nous a permis de nous priver de l'esclavage, puisque grâce à l'énergie pas chère, bon marché, Aujourd'hui, je crois qu'on a un occidental normal à l'équivalent, à chacun à sa disposition, moyen, l'équivalent de 20 chevaux. Donc aujourd'hui, il y a 500 ans, 20 chevaux, il n'y avait que des grands seigneurs qui se permettaient d'avoir ça. Aujourd'hui, le citoyen moyen a ça. Le jour où on l'en prive, on ne pourra plus du tout faire la même chose. Donc justement, devant ces, enfin, il faut dire aux gens quelle est justement cette inquiétude. Et après, il faut travailler sur la transition.
Quoi. Alors donc vous, j'imagine que vous êtes un spectateur attentif de grands rendez-vous comme Rio plus 20.
Oui, alors par exemple, effectivement, les prises de conscience à l'échelle planétaire, aujourd'hui ça passe par des grandes conférences, des grands sommets, donc ce qu'on appelle les sommets de la Terre. Il y en a eu un premier qui était en 72 à Stockholm, à Nairobi en 82, il y a eu le fameux sommet de Rio en 92, qui pour moi avait été vraiment l'origine de mon intérêt pour l'écologie. Ça a vraiment été là, à l'époque je passais mon bac, et c'était voir 100 chefs d'État réunis au chevet de la planète, je trouvais ça absolument fabuleux, et je m'étais dit, bon, c'est bon, l'humanité a tout compris, la recette est là, il faut changer ça, ça et ça, on va y arriver. Et puis 20 ans plus tard, on se rend compte qu'on n'y est pas arrivé. Et même pire, on est sur la plupart des questions, on a régressé. Et le débat s'est petit à petit recentré autour de l'unique question du réchauffement climatique et du CO2. Mais on a laissé de côté la biodiversité, on a laissé de côté la déforestation, l'avancement des déserts. Et le vivant souffre énormément, recule, la pauvreté n'est pas éradiquée. Et le CO2, je crois qu'on vient d'annoncer, c'est là qu'on a battu en 2011 l'année où on a eu les plus fortes émissions de CO2. Donc Kyoto n'a servi à rien, parce qu'il y a tellement eu d'exemptions de certains États, de certains secteurs à Kyoto, que finalement les efforts ont été tellement sur des petites zones que globalement, ça n'a pas permis d'endiguer la hausse du CO2. Et donc, on constate un échec. Donc moi, j'attends vraiment cette conférence Rio plus 20 pour voir est-ce que les États, ça serait intéressant, soit on arrive à un sursaut et une volonté vraiment de réagir, ou alors si tous les États se disent, c'est bon, on n'y est pas arrivé, on reprend tout, là, il faut tout reprendre à zéro, repartons d'une feuille blanche. Moi, je préférerais ça. À la limite, j'étais parmi ceux qui étaient satisfaits, par exemple, de l'échec du sommet de Copenhague, puisque ce qui était en jeu dans la négociation finale à Copenhague était tellement minuscule par rapport à ce qu'on aurait dû changer. Je m'étais dit, si on réussit, les gens vont dire pendant 20 ans, c'est bon, on a notre feuille de route, on a Copenhague, c'est génial. Copenhague, c'était à peine plus que Kyoto qui, comme je vous le disais, a servi à rien, et puis qui était que sur une problématique qui était le CO2. Et alors que le chantier du 21e siècle pour notre espèce et puis pour la biosphère et la survie de notre espèce, de nos enfants, et il est monstrueux. Et d'ailleurs, le héros Paul Garner dans le livre a un texte qui s'appelle le Manifeste Bleu dans un de ses blogs, dans lequel il liste les défis du 21e siècle. Et quand on les voit, on se dit vraiment qu'il va falloir se retrousser les manches. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de ce siècle, qui fait l'intérêt de cette époque dans laquelle on vit. Mais il faut vraiment qu'on dise les choses en entier. L'effort à fournir est gigantesque, et en leur disant que si on fait des tout petits efforts, on va s'en sortir, ça ne sert à rien. Et en plus, on voit même pas les effets de cette transition écologique. Aujourd'hui, par exemple, en France, on a fait le Grenelle de l'environnement, qui était une bonne idée. L'analyse initiale était très bonne. Mais quand on regarde en pratique ce qui a été fait, c'est tellement peu de choses que la seule chose que l'on voit, c'est le coût de ces mesures. On voit pas leur effet. On ne respire pas mieux, on ne vit pas mieux, on vit pas dans un environnement idyllique. On s'est arrêté même pas au milieu du gué, au tout début du gué. Et donc, la seule chose qu'on voit, c'est ce coût. Et donc, si on fait pas des mesures écologiques ambitieuses pour, je dirais, préserver ce paradis terrestre que l'astronaute voit très bien depuis l'espace, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir un récit qui n'est pas du tout sur la peur, il faut vraiment un récit sur le rêve, et c'est ça que j'aimerais qu'il sorte de ce sommet Rio plus 20, pour redonner la ferveur aux gens de réinventer en fait ce 21e siècle, d'avoir un projet commun au niveau de l'humanité. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas c'est mon espoir pour le sommet de Rio.
Mais si on arrivait à dépasser ces problèmes-là et à inventer ce nouveau monde, vous garderiez la technologie, la recherche scientifique
Le point de départ, c'est qu'on est 7 milliards. Et pour faire vivre 7 milliards d'humains, alors il faudra qu'on fasse évoluer nos comportements, mais je pense pas qu'on puisse se priver de la science ou de la technologie, puisque déjà rien que pour nous faire vivre, on aura besoin de technologie. Et la technologie, si on se projette plus loin, on en aura toujours besoin pour autre chose, pour continuer l'exploration du système solaire, mais aussi pour mieux optimiser, mieux gérer ce que l'on a sur la Terre. Elle est indispensable, avoir des techniques qui mesurent toutes les choses pour s'assurer que voilà, la consommation des ressources, elle est bonne, créer des objets qui sont plus recyclables. Donc, on a besoin de l'intelligence humaine pour créer un nouveau mode de société qui soit pérenne. À 7 milliards d'humains sans technologie, je pense qu'on revient à la barbarie assez vite.
Merci, Jean-Pierre
Gou. Je voulais pas finir sur cette touche-là.
Donc, oui.
Parce que c'est vrai que la barbarie, c'est, enfin, tout ce livre est justement une lutte contre la barbarie. Le premier tome, il commençait par une citation de Camus qui disait que chaque génération était vouée à refaire le monde. La mienne, c'est qu'elle ne le refera pas, mais son objectif, c'est d'empêcher que le monde se défasse. Moi, j'ai tout fait en fonction de cette citation de Camus. Et justement, la barbarie, moi, j'en veux pas. Et j'essaye d'apporter un éclairage, un espoir à travers ce livre. Alors que les gens peuvent découvrir ce livre, mais aussi sur le site internet www.sièclebleu.org, dans lequel il y a tous les articles de mon blog, toute la documentation que je vais mettre en ligne sur le livre et des tas de compléments pour ceux qui veulent lire les prolongements de cette aventure. Et peut-être que ça sera la souche, la base de cette révolution bleue si des gens veulent bien la faire.
Alors je vous rassure, moi, quand on vous lit, on n'a pas du tout l'impression qu'on va disparaître sous la barbarie. On a plutôt l'impression que vous réalisez un exploit, c'est le programme indispensable pour toute espèce de personne qui voudrait se présenter au suffrage des autres. Et ça ferait un programme de gouvernement assez extraordinaire.
Ouais, j'y penserai pour dans 5 ans.
Voilà pour le tome 3, parce qu'il va y avoir un tome 3. Merci Jean-Pierre Gou pour ce siècle bleu, ombre et lumière paru chez Hugo Roman. Merci aussi à Cécile Bonissi, notre réalisatrice bleue, mais bleue de bonheur et de plaisir. La science sur RFI, ça continue dès lundi, ce sera avec Dominique Dezonnet. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, ce sera le même jour et la même heure.